Aujourd'hui, au Élite Podcast, on reçoit Philippe Croisetière, chiropraticien, qui est en fait mon chiro depuis 2001, même si ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu, tant mieux, ça fait du bien de ne pas avoir mal au dos. On peut dire que tu es 50% de ton travail avec des sportifs, 50% avec monsieur et madame tout le monde.
Oui.
Clinique qui est située sur 4 Bourgeois, ici à Québec, pas loin des ponts. Je te laisse, Phil, te présenter, nous faire une petite historique de ton parcours, tes études, ta clinique.
OK. Moi, je suis gradué en 96 de l'université qui s'appelle Palmer, qui est à Davenport, en Iowa. C'est ça. De 96 en 2000, j'ai travaillé à une clinique, puis après, j'ai parti en 2000 à ma clinique qui s'appelle Optimum. J'ai travaillé beaucoup avec des équipes dans le passé. Les Alouettes de Montréal, j'ai travaillé avec l'Académie de baseball du Canada, le Rouge et Or, puis je travaille encore avec les Capitales de Québec.
Okay.
Okay, oui, ma pratique, il y a une bonne partie de la clientèle qui est des athlètes, puis une bonne, l'autre moitié, c'est monsieur, madame, tout le monde qui ont des blessures.
OK. C'est un ancien joueur de baseball, c'est ça?
Oui, j'ai joué au baseball, puis j'ai nagé à l'Université Laval dans le Rouge et Or.
OK.
Ouais.
OK.
Peux-tu nous faire une brève description un peu c'est quoi la chiro en soi, puis qu'est-ce qui différencie la chiro de la physio, mettons, ou l'ostéo?
Oui, bien, c'est pour faire une longue histoire courte, là, la chiro, ça part de la manipulation des articulations. Ça fait que, tu sais, ça a commencé comme ça. Je dirais que la physio, à mon avis, je suis pas physiothérapeute, mais comment moi je le perçois, c'est que ça a commencé avec des problèmes musculaires puis la réhabilitation musculaire. Puis l'ostéopathie, ça a commencé plus avec la manipulation des viscères puis des organes. Maintenant, en 2020, bien, on a tous un peu la même tarte. Fait que, tu sais, il y a certaines choses qu'on fait que la physio fait, puis il y a certaines choses que la physio fait que nous on fait. Je ne sais pas si je l'ai dit à l'envers, là, mais. La manipulation, il y a des cours spécialisés en physio qui enseignent ça. Puis nous, on fait aussi de la thérapie complémentaire, on donne des exercices, ces choses-là. Fait que, tu sais, c'est ça, les tartes s'entrecoupent. Puis la façon, la principale façon, c'est comment qu'on, philosophiquement, pardon, qu'on voit le corps humain.
Souvent, le chiro est rattaché, si on veut, à l'idée que tu vas voir le chiro, crac-crac, c'est fini, puis c'est ça. Je pense que c'est une partie de votre pratique, mais c'est pas que ça.
Oui.
Puis souvent, les gens ont peur de ça.
Oui.
Peux-tu nous expliquer un peu ce qui se passe quand tu te fais craquer, démystifier un peu le bon vieux craquement, là? Puis
c'est-tu
bon, c'est-tu mauvais? Y a-tu des places où il faut faire attention, c'est-tu c'est correct? Tu sais, c'est quoi un peu le.
C'est ça. Ben, je vais parler pour ma pratique, tu sais. Je veux pas parler pour tous les chiros en général. Tu sais, quand tu viens chez nous, le but, c'est pas nécessairement de faire cavité ou craquer une articulation. Le but, c'est de regarder, voir la condition, ta condition, puis l'évaluer. Ça peut être un problème de déséquilibre musculaire, ça peut être un problème de proprioception, ça peut être un problème, tu sais, vestibulaire, ou ça peut être un problème qui est purement articulaire. Quand c'est un problème purement articulaire, c'est sûr que la manipulation, ben là, est plus appropriée. Puis la cavité, ce qu'on entend craquer, c'est une cavitation. Ça veut dire que ton articulation a comme une erreur de position, tes muscles forcent d'une certaine façon, puis ils bloquent ton articulation dans un mouvement donné. Puis la pression intra-articulaire, parce qu'à l'intérieur de ta pression, à l'intérieur de ton articulation, tu as du liquide. Ce liquide-là permet de lubrifier ton mouvement. Puis quand ta vertèbre, on va prendre une vertèbre, quand ta vertèbre est fixée dans un certain endroit, bien, sa pression-là devient plus forte dans un bout de l'articulation versus l'autre. Et quand on fait une manipulation à haute vélocité, ça veut dire que quand que je pousse sur quelque chose, bien là, l'air s'échappe de l'articulation, puis on entend un pop. Fait que c'est une libération de la pression. Dans le fond, c'est comme si on rétablissait la pression à l'intérieur de l'articulation, puis c'est comme pour ça qu'on se sent mieux. Même principe que quand on fait craquer un doigt.
OK. Parce qu'il y a des risques à ça.
Il y a des risques. Ben, oui, il y a des risques au niveau neurologique. On peut pas dire qu'il y a rien qui a pas de risque, mais les risques, on les évalue là, avant le traitement. Les seuls risques, principalement, qu'on peut rencontrer, c'est au niveau cervical. Parce qu'à l'intérieur, au niveau cervical, tu as des artères qui passent dans ta colonne. Puis quand tu as une faiblesse au niveau de ces artères-là, puis tu le sais pas, la manipulation peut être contre-indiquée.
OK.
Fait que...
Non, parce que des fois, les gens ont peur. Ils vont dire, ah, « Moi, je vais pas le chiro, je peux me faire craquer. »
Oui, il y a encore... Hein, il y a du monde qui ont peur de se faire craquer. Pourquoi? Parce que la sensation, ils l'aiment pas. Okay. Puis il y a du monde qui adore se faire craquer parce que la sensation, c'est une sensation de relâchement. Ceux qui n'aiment pas se faire craquer, mais on a différentes techniques, là, des techniques de tissu mou, des techniques plus relaxes, okay. qui ne viennent pas justement faire caviter l'articulation.
Okay. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un must. T'as touché le chiro, ça ne veut pas dire que tu vas te faire craquer. Là.
Non.
Un bon chiro, on va dire.
Non, mais tu sais, c'est quand même le moyen, à mon avis, le plus efficace et le plus rapide de sortir puis de voir une différence. Okay. De sortir du bureau puis de voir une différence. T'sais, ça peut être excessivement efficace. Mais t'sais, il faut que tu sois prêt à entendre ça. Sinon, t'sais, c'est sûr que ça peut être un petit peu plus long. Si on travaille les fascias, si on travaille les muscles, si on travaille t'sais, l'amplitude articulaire, t'sais, c'est des choses que tu vas être mieux sur le coup, mais t'sais, tu ne sentiras pas nécessairement le bienfait comme si tu étais fait cavité.
OK.
Dans ton quotidien à la clinique, le client typique que tu vas voir, c'est pour quel type de problématique que tu vas retrouver? C'est souvent les mêmes choses que tu vas retrouver avec la plupart des clients? Ou...
Ça, ben, bon,
beaucoup de dos?
Beaucoup de dos, beaucoup de coups. Puis, tu sais, les problèmes de coups, beaucoup d'épaules qui sont reliées aux problèmes de coups. Milieu de dos, tu sais, c'est ce que je leur explique souvent. Là, principalement, je peux mettre des triangles. Fait que si... je vois un triangle dans le haut du corps puis un triangle dans le bas du corps. C'est principalement ça qu'on voit le plus souvent. Je vais m'exprimer un petit peu mieux. C'est que le triangle dans le haut du corps, c'est le cou, l'épaule puis le milieu du dos. Ça forme un triangle. Fait que, tu sais, ça, on voit beaucoup, beaucoup de conditions avec ça. Le bas du dos, bien, on parle de la région lombaire, la hanche et l'aine. Fait que, tu sais, on voit beaucoup d'autres problèmes aussi avec ça. Puis on peut mêler le genou avec ça. Parce que le genou, tu sais, c'est une articulation qui répond à ce que ta cheville va faire ou à ce que ton... je vais faire.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, c'est principalement, là, c'est, on pourrait dire, là, c'est deux zones qu'on voit.
Le cou, l'épaule, la hanche, le bas du dos.
Oui, le cou, milieu de dos, ouais, c'est ça. Au niveau mécanique, oui.
Est-ce qu'il y a une principale blessure pour laquelle tu es connu comme étant un magicien pour régler ça? Ou,
Mais je veux dire, de façon, pour compléter sa question, de façon générale, est-ce que les gens te sont référés? Ou c'est des gens qui cherchent un chiro, qui ont mal au dos, qui vont chez vous?
99% de la clientèle sont refaits, qui viennent me voir.
C'est ce monde qui sont fait envoyer chez vous pour régler un problème particulier. C'est pas le gars qui se réveille qui a mal au dos, qui va sur Internet, dire « Ah, je vais aller voir lui, il n'y a pas un chez nous, ça arrive. »
Oui, ça arrive. On est 4 qui ont la clinique, puis on appelle ça les sans-référence. Les sans-référence, habituellement, là, c'est deux de mes associés là, qui ça fait un peu moins longtemps qu'ils travaillent, qui les voient. Là.
Mais toi, personnellement, à peu près tout le monde est référé.
Personnellement, c'est sûr que j'aime mieux voir des personnes qui sont référées parce qu'ils arrivent déjà avec un lien de confiance. Okay. Des personnes qui sont non référées, mais tu sais, c'est sûr qu'ils se fient un peu à ce qui a été dit à gauche, à droite, puis ils viennent d'une visite, puis s'ils n'ont pas l'effet escompté après la première visite, bien, ils posent des questions, puis le monde dit « Ah, va voir mon ostéo, ah, va voir mon physio, ah, va voir mon autre chiro. » Fait que là, tu sais, la personne devient un peu plus confuse, puis c'est plus difficile d'avoir un traitement qui est durable puis qui est efficace dans ce temps-là. C'est un peu comme l'entraînement. Tu sais. Si tu veux une perte de poids ou un gain musculaire, tu te donnes une semaine pour l'avoir, mais tu sais, tu risques d'être un peu déçu.
Mm-hmm. C'est un peu un classique aussi avec les sportifs. Quand tu viens d'une équipe sportive, on va souvent se référer, comme moi, c'est un coach de foot qui m'a référé à toi.
Ouais.
J'ai référé d'autres gens à toi. Ça fait que, veux pas, entre sportifs, on se réfère les spécialistes pour lesquels on a besoin de traitement.
C'est ça. C'est un lien de confiance à un moment donné que tu établis, puis c'est super important de le garder. Ouais.
Il y a certaines personnes qui voient ça comme un suivi, un traitement court terme, la chiro. C'est quoi qui fait en sorte, on en a parlé un peu tantôt ensemble, là, qu'est-ce qui fait en sorte que, mettons, moi, je me lève un matin, puis c'est une histoire vraie, là, je me suis levé, j'étais plus capable de marcher, je suis allé te voir, puis en 2-3 traitements, en 10 jours, j'étais correct, versus une autre personne qui va avoir besoin peut-être de 15 ou 20 traitements pour finalement se régler d'un problème de dos.
Oui, mais pour revenir un petit peu sur la question, le début de ta question, c'est que il y a du monde qui pense la chiro comme court terme, puis il y a du monde... On a eu des mauvaises presses sur, tu sais, quand tu rentres chez le chiro, tu ne ressors plus jamais. T'sais.
Ouais.
Ben, tu ressors, là, pour aller prendre ton auto, mais tu es tout le temps.
On l'a déjà entendu.
Tu es tout le temps pris pour retourner. Fait que je vais essayer de, d'expliquer les deux ouais. côtés de la médaille. Pour répondre à ta question, pourquoi des fois ça prend deux traitements, puis pourquoi des fois ça en prend 20, c'est à cause qu'il y a des conditions des fois qui paraissent simples, qui sont vraiment plus complexes. C'est un peu comme un oignon, tu enlèves une pelure, puis tu en as un autre en dessous, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Fait que là, tu sais, le temps de tout déchiffrer ça, bien, tu sais, ça prend plusieurs visites. Tandis que, tu sais, si tu t'es fait plaquer au football, tu sais, puis que tu as un torticolis, mais ça, c'est plus simple. Ça peut prendre deux visites, le temps qu'on manipule ton articulation, qu'on retrouve le mouvement, l'inflammation descend, puis après, tu es correct, il n'y a pas eu de séquelles. Mm-hmm. Mais si ça fait, genre, des mois et des mois que tu as un problème d'épaule ou un problème de hanche, puis là, que ton système s'est adapté à un mouvement, bien là, tu sais, il faut recréer l'aspect moteur de ce traitement, du mouvement, en plus de rétablir une mobilité articulaire.
Plus une personne attend avant de venir te voir, probablement, plus ça complique aussi la pratique.
Oui, plus c'est long. Bien, plus c'est long. Ça dépend. C'est vraiment difficile. Il y a des personnes là, que ça fait là, genre 4-5 ans qui ont un problème, puis en une visite...
Tu gagnes 80% de la condition.
Oui. Tu sais, j'ai eu une jeune patineuse. Là. Elle, ça fait genre 4 ans qu'elle a des problèmes aux genoux. Elle est allée voir tous les spécialistes. T'sais, on lui a fait une chose, mais ça fait 3 mois qu'elle n'a plus mal.
Ah oui.
Il y a des choses comme ça qui arrivent. T'sais. On les explique, mais quand on a la même condition ailleurs, on essaye de l'expliquer de la même façon, puis on n'a pas tout le temps le même résultat.
Ouais. Je te laisse aller, Alex.
Y a-tu une condition, par exemple, où je sais pas, des fois, tu disais des fois la patineuse, ça fait longtemps. Y a des gens qui sont en train de des blessures depuis longtemps, qui ont vu plein de spécialistes, puis tout. Mais tu sais, y a-tu des conditions plus spécifiques pour lesquelles, faut aller voir Phil Croisetière, mettons. T'as-tu une expertise différente? Y a-tu des conditions. Je sais pas si ma question est claire, là.
Oui. Puis, ça dépend. Il y a du monde qui dit, il faut que tu ailles voir Phil Croisetière, tu t'es foulé la cheville, moi je suis allé, puis il m'a arrangé ça, puis ça a vraiment bien été. T'sais. Tandis qu'il y en a un autre qui pourrait venir me voir pour ça, puis ça irait moins bien parce que sa foulure, disons, est différente ou c'est un interosseux qu'il y a, puis ça prend vraiment du temps à guérir. Mais principalement, moi, j'ai une spécialisation en neurologie fonctionnelle. Fait que, on voit beaucoup de problèmes vestibulaires, on voit beaucoup de commotions, on analyse ces affaires-là d'une façon vraiment différente. Okay. Fait que, il y a de plus en plus de personnes qui tendent à référer pour ces conditions-là.
Quand on se parle de problème vestibulaire, est-ce que c'est nécessairement quelque chose que la personne va se dire « Ah, j'ai un problème vestibulaire dans le sens où je suis pas perdu d'équilibre, mal de transport, ça » ou ben non, ils ont mal au dos d'un côté, puis finalement, vestibulaire, le problème vient de là?
Ça peut être ça. Ça, c'est pas les personnes qui me sont référées d'emblée, c'est pas nécessairement ces personnes-là qui le savent pas. Il y a des personnes qui savent pas qu'ils ont un problème de proprioception vestibulaire. Ils vont juste s'en rendre compte quand tu vas les faire marcher sur une ligne droite, un pied en avant, les yeux fermés, ils vont être incapables. Puis là, ils vont dire, comment ça, je suis pas capable. Fait que là, à ce moment-là, c'est là qu'on développe je dirais pas une série de traitements, mais une série d'exercices, puis de traitements aussi pour venir pallier, là, justement, cette instabilité-là.
OK.
Dans le fond, si je peux en phaser un petit peu là-dessus, là, si la personne vient avec un mal de dos, puis est allé voir tout le monde avant, chiro, physio, ostéo, on va essayer de ne pas refaire la même chose qu'eux autres ont fait.
Ouais.
On va gratter un peu plus creux, puis c'est là, quand on gratte un petit peu plus creux, c'est là qu'on évalue là, les autres systèmes, là, vestibulaires, oculomoteurs, perceptuels, on vient regarder là, les différentes fascias dans ton corps, on vient regarder la proprioception au niveau de tes pieds, puis on vient gratter un petit peu plus creux pour savoir bon, pourquoi que, les autres traitements n'ont pas eu l'efficacité qu'ils auraient dû avoir. Ça répond-tu à ta question?
Mais c'est en fond tout ça pour dire qu'il n'y a pas de conditions particulières comme par exemple sur une physio mettons, qui est spécialisée sur les épaules ou sur les croisés. Fait que c'est pas si clair que ça, mais pour quelqu'un qui aurait essayé plein de différentes spécialités et qui n'aurait pas eu sa réponse, qui n'aurait pas eu le traitement convenable.
Parce que, tu sais, ben,
d'aller te voir, ça pourrait être une option différente, plus que de dire qu'aller voir un autre chiro pour se faire craquer par le même chiro, un chiro différent, voir s'il est meilleur que l'autre.
Tu sais, les épaules, on en voit vraiment beaucoup, tu sais, à cause de mon implication au baseball. Mais, tu sais, les épaules, tu sais, on vient regarder le corps humain un peu comme un tout. Tu sais, ton épaule peut être à cause que ta hanche du côté opposé n'est pas assez mobile. T'sais, pour un lanceur t'sais, qui lance, t'sais, s'il n'est pas capable de tourner autour de sa hanche, c'est sûr qu'il va compenser avec le haut de son corps, il va essayer de fouetter un peu plus son épaule, fait que là, il va avoir des tendinites à répétition. Fait que, t'sais, même si on essaye de traiter son épaule dans ce cas-là, puis on vient pas regarder la hanche, ben, t'sais, on, il peut avoir l'épaule la plus forte du monde, mais t'sais, c'est sûr qu'une épaule, c'est jamais aussi fort qu'une fesse. Fait que, t'sais, il faut essayer de voir le corps un peu comme un tout. Puis c'est un peu ça qui fait notre force, je te dirais, là. S'il y a une condition que le monde vient de me voir, c'est pas une condition, c'est plus la façon qu'on voit le corps. Là.
OK. Ouais. Façon différente.
Ouais.
Différente puis plus globale que juste.
Ouais, un peu plus globale. Pas nécessairement différente parce qu'il y a différents professionnels tu sais, qui ouais. ont.
Ben, aussi différente que la norme, là. Si on veut. Là.
Ouais, c'est ça.
C'est pas le seul à faire ça. Là.
Que de mettre chaque articulation dans une case bien précise.
Okay. Est-ce que le chiro peut régler certaines problématiques? À lui seul, ou tu vois vraiment plus ça comme un travail d'équipe avec tout le monde autour, là. Exemple entraîneur physique, médecin, c'est vraiment une problématique un peu plus grave, où il y a certaines choses que le chiro va vraiment régler par ses traitements.
Bien, si on est capable d'avoir une collaboration de tout le monde, c'est sûr que c'est le traitement va c'est être optimal. Plus efficace, il va être plus optimal dans le temps. T'sais, mais est-ce qu'on est capable de... d'aider des conditions vraiment à court terme. Il y a des personnes qui viennent me voir, ils ont mal à la tête depuis, genre, je sais pas, 2 ans, puis on fait certaines choses, certaines manipulations, on fait certaines stimulations, puis là, ils ont plus mal à la tête. T'sais, est-ce que ça va revenir? On le sait pas. Mais en même temps, si on est capable d'avoir une approche avec un nutritionniste, avec un entraîneur qui vient corriger tout ça, mais c'est sûr que l'approche est bien plus globale, puis c'est bien plus durable, puis c'est bien mieux.
On entend beaucoup, ça me fait penser à ça, là. Tu parles des maux de tête, mais on entend parler beaucoup de l'utilisation de cellulaires et tablettes.
Ouais.
Tu vois-tu un impact là, par rapport à ça dans ce que tu fais au quotidien?
Ouais, énorme, chez les jeunes,
ah ouais?
Chez ma fille surtout.
Ah ouais.
Non, mais...
Posture?
Face à part, oui, posture, puis tu sais... Posture, concentration, je dirais même, là, tu sais, j'engloberais même là-dedans humeur.
Ouais. Ça, parce que souvent, on entend dire, ce que moi, je pense que c'est une erreur, là, c'est de dire, ah, maintenant, les jeunes ont une tablette, fait qu'ils bougent pas, fait qu'à cause de la tablette, ils bougent pas, donc ils se dépensent pas, donc ils ont plein de problèmes. Mais moi, je pense que la tablette en soi est un problème. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, ouais. Parce que, par exemple, dans le temps, les jeunes, ils dessinaient, il faut passer des heures à dessiner, là. Puis, il n'y avait pas des problèmes d'humeur, comme tu disais. Il n'y avait pas, tu sais, je pense que.
Tu sais,
ça cause. Je pense que c'est à tort de dire que les jeunes, ils ne bougent plus parce qu'il y a des tablettes. Mais ils bougent moins, peut-être. Mais je pense que le problème n'est pas du.
Oui, le problème n'est pas nécessairement à cause. C'est pas la tablette qui les fait moins bouger. C'est
ça. C'est la tablette a peut-être une
c'est
autre
stimulation. C'est
ça. Oui, puis, tu sais, c'est ça. C'est ça. C'est que. C'est, je vais te donner un exemple, là. Tu sais, quand on teste pour les commotions cérébrales, il y a un test qu'on appelle un test optocinétique. Hein? Le test optocinétique, c'est que tu fais passer des barres dans un champ visuel, une barre rouge puis une barre blanche, okay? Super vite, barre rouge, barre blanche, qui s'enchaîne, okay? D'une vitesse constante vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas. Les personnes qui ont des commotions, ils répondent super mal à ça. Okay? Pourquoi? Parce que ça affecte le système vestibulaire, donc tu deviens un peu étourdi puis ça te fait mal aux yeux. Quand tu scrolles ton téléphone super vite, là, c'est exactement ce que tu fais. Fait que ton œil est tout le temps en train d'avoir un battement. Fait qu'il fixe, il défixe. Il fixe. Puis ça, pour le système nerveux central, c'est vraiment fatigant. Là, c'est taxant au bout. Fait que toute l'énergie que tu prends là, ben, à mon avis, tu l'as pas ailleurs.
Mm-hmm.
Fait que puis c'est ça. Tu deviens vraiment focus sur une autre affaire. Puis là, quand il y a d'autres stimuli qui arrivent, ben là, ta patience est moins là.
Ça peut être surprenant des fois de vérifier aussi le nombre de la période par jour que tu passes sur ton téléphone. On s'en rend plus ou moins compte, là, mais ça s'enregistre à quelque part.
Ça, tu as des applications pour ça, puis effectivement. Puis juste au point de vue mécanique, tu sais, regarder ta tablette, tu sais, tu as la tête penchée un petit peu comme ça, tu sais, fait que tes fléchisseurs, tu sais, augmentent en tonicité. Ta courbe cervicale diminue. Fait que quand tu te tiens debout, ta posture change. Puis si ta posture change, tu deviens un petit peu plus kyphotique, tu deviens un petit peu plus rond. Puis, si tu prends, ça veut dire que ta capacité pulmonaire diminue aussi. Fait que, ton oxygénation est moins bonne. Ton pH, il devient un peu plus instable, à cause que tu as moins d'oxygénation. Fait que, c'est une série de facteurs, qui s'enchaînent. Puis, il n'y a pas nécessairement un qui crée l'autre. Puis, il n'y a pas d'études qui ont été faites non plus là-dessus. Mais en théorie,
qui a un impact sur ta santé générale.
Moi, je te dirais que ça a un impact peut-être un peu plus grand qu'on peut penser.
Je pense aussi, oui. Dans le registre des questions qu'on se fait poser par tout plein de monde, est-ce qu'on peut penser que le fait de se faire traiter à répétition à un endroit spécifique, exemple, tu bloques en lombaire, puis la personne va te voir 10 fois parce que ça débloque pas, puis à un moment donné, après 10 fois, ça débloque. Est-ce que ça fait en sorte que cette région-là devient plus faible?
Pas nécessairement. Si tu es vraiment bloqué, puis l'articulation a été difficile à manipuler, puis finalement, tu réussis à avoir la mobilité que tu veux avoir, c'est bien différent que si y a une personne qui vient me voir 2 fois par semaine, puis qu'elle s'arrête dans le milieu du dos, puis toutes les fois, on la manipulait tout le temps dans le même axe, les mêmes vertèbres, pendant 52 semaines, 2 fois par semaine. Oui, à ce moment-là, tu vas développer une hypermobilité. Puis c'est pas mieux non plus.
Okay.
C'est plus facile de créer de la mobilité sur quelque chose qui bouge pas que stabiliser quelque chose qui bouge trop.
OK. Puis la personne qui va venir te voir, mettons, se faire craquer le milieu du dos.
Ouais.
Exemple, comme tu dis, le système musculaire ne prendra pas la relève à un moment donné, même si tu craques à répétition sur plusieurs semaines. Pour stabiliser ça, ou ça se fait pas automatiquement, c'est ça?
Normalement, ça devrait le faire, mais ça dépend, tu sais. Si tu as une... comment qu'on voit le corps humain, là, c'est que pour chaque articulation, OK, tu dois avoir une stabilité ou une mobilité. Ouais. Disons, la cheville doit être stable, le genou doit être mobile. La cheville doit être mobile.
La pyramide de Gray Cook.
T'sais, il faut que ta cheville soit immobile, ton genou soit stable, ta hanche soit immobile, les lombaires doivent être stables. Fait que disons que ta hanche est vraiment pas mobile, mais pour ce manque de mobilité-là, tu vas essayer de créer la mobilité au niveau lombaire.
Classique.
Fait que, t'sais, tant que, même si, et tu bloques dans le milieu du dos, puis je viens pas régler ta hanche, ça va tout le temps avoir tendance à revenir et à revenir. Puis c'est ça, si tu circonscris pas le problème comme il faut, mais c'est là que tu vas être tout le temps obligé de manipuler les mêmes zones. Fait que, tu sais, si tu as à manipuler tout le temps les mêmes zones, bien, c'est à te poser une question.
Y a-tu quelque chose,
que j'ai perdu en cours de route, tu sais, puis qu'on n'a pas fait, qu'il faudrait retourner à la base, puis faire un examen, puis regarder si on a oublié quelque chose.
Yep. On offre des services en entreprise, comme tu sais probablement. On se déplace, on fait de l'ergonomie de poste de travail. On entend parler beaucoup, il y a de plus en plus de gens qui travaillent assis 40 heures semaine. T'as-tu remarqué une hausse des problèmes de dos dans les dernières années reliés avec les gens qui ont des travaux de bureau, travail de bureau?
Oui, plus qu'avant, plus que quand j'ai commencé même. Peut-être que ça a rapport avec on a un système de vie qui est efférent. Là, on n'arrête jamais. On est tout le temps à gauche, à droite. Puis on essaie de squeezer l'activité physique idéalement 3-4 fois semaine. Puis ça devrait être, à mon avis, tous les jours. Tous les jours, il faudrait que tu t'actives. Puis là, le monde n'a pas le temps. Les enfants, les chercher à la garderie, préparer les repas, le trafic, les devoirs. Fait que tout ça apporte les personnes à bouger un peu moins. C'est pour ça que je pense que ce que vous faites en entreprise est primordial. Puis, il y a aussi l'ergonomie des postes de travail. Plus de monde travaille sur des laptops. Les laptops, tu sais, l'ergonomie est un peu moins bonne. Tu travailles avec un bureau un peu plus long, un peu plus haut, puis c'est ça.
Plus de troubles de dos quand même dans les dernières années avec tout ça que dans le passé.
Oui. Est-ce que c'est à cause de l'ergonomie ou c'est à cause du style de vie? Du stress qui nous est imposé un peu, c'est une bonne question. Là. C'est difficile de séparer un de l'autre.
Je me rappelle pas de l'article précisément là, de qui avait pondu ça, mais j'ai vu ça dernièrement dans mes recherches, que même si tu bouges à tous les jours, tu peux pas effacer 8 heures de travail de bureau avec 1 heure d'entraînement. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu vois qui peut être une solution pour les prochaines années, pour les gens qui ont des jobs de bureau pour prendre soin de leur dos, on va dire, là?
C'est une bonne question. Moi, mais... C'est une bonne question.
C'est pas une question facile.
C'est complexe. Ouais.
Sais-tu, si j'étais là, propriétaire d'une méga entreprise avec plusieurs centaines d'employés, j'essaierais à toutes les heures de créer un genre de 30 secondes, dans mesure du possible, hein, parce qu'il faut que tu fasses attention. S'il y a du monde qui ont des problèmes de pression, des problèmes de genoux, un 30 secondes là, à haute vélocité. Que ce soit là, monter une marche puis la redescendre, monter pendant 30 secondes le plus vite que tu peux aller.
Pour activer toute la circulation.
Puis j'ai vu des recherches qui ont un petit peu, qui sont en allées dans ce sens-là, en Ontario, là, le genre de HIIT training. Là. Mm-hmm. Puis ils disaient que 30 secondes d'exercice à extrême haute vélocité pour ton système nerveux, mm-hmm. Tu sais, je te dis pas pour ta capacité pulmonaire, puis ni pour ton système musculaire, mais au niveau du système nerveux central, ça faisait un bienfait énorme. Fait que c'est comme si tu étais capable de repartir ton horloge à zéro.
Puis on parle pas de faire des squats, là. On parle non, de quelque chose qui est rapide.
Ça peut faire des. Tu peux faire genre 30 air squats dans 2 minutes. Là, c'est pas une question de qualité de mouvement. C'est plus question une question de vitesse.
Ouais. Puis il y a des études aussi même sur les maladies cardiovasculaires. Là. Je pense que c'était comme 1 minute ou 2 minutes par jour, vraiment à fond. Là.
Ouais, ouais.
C'était mieux que de courir 1 heure.
Oui, c'est un peu le
dans
même.
Dans cet esprit-là, ouais,
c'est
ça.
C'est vraiment dans cet esprit-là. Puis encore là, il faut que tu fasses attention. Tu imagines-tu que le directeur d'entreprise qui fait ça à ses employés, puis il y en a une qui pète une crise de cœur, tu sais.
Ouais.
C'est pas tout le monde qui est prêt nécessairement à faire, je dirais, cet effort-là. Mais je pense que si je vois quelque chose qui pourrait avec
un reset postural quand tu passes beaucoup de temps assis.
Ouais, tu peux le faire. Il y a des exercices de yoga qui existent. Là,
ou même,
envoyer ta tête vers l'arrière, les paumes, ouvrir vraiment ta cage thoracique. Je pense que ça pourrait être bon.
Ça
il y a
peut
plein
pas
d'affaires, mais c'est ça. Mais tu peux jamais oublier que si la personne arrive chez eux le soir, super stressée, elle écoute une série de Netflix jusqu'à 1h du matin, il faut qu'elle se réveille à 6h du matin. Les meilleurs exercices que tu peux faire au bureau, ça va être un coup d'épée dans l'eau.
Ouais. Le travail de bureau avec les postes ajustables debout, penses-tu que c'est quelque chose qui va nous amener une nouvelle problématique de haute, là, parce que c'est une nouvelle tendance? Là? Parce que le travail debout, on s'entend que si tu passes une couple d'heures dans ta journée à travailler debout à un ordi, c'est pas nécessairement peut-être mieux.
C'est une question statique, oui. Oui, mais tu sais, si tu es capable d'ajuster ton poste, je sais pas, peut-être la moitié de la journée assis puis l'autre moitié debout.
Bouger, alterner dans ta journée. Mais...
Au niveau ergonomie, là, tu sais, je veux pas me mouiller trop là-dedans parce que c'est pas ma spécialité. Je peux juste dire, tu sais, que. On en voit effectivement un peu plus. Les ergonomes qui travaillent en entreprise, je pense qu'ils font un excellent travail.
Mm-hmm.
Mais je pense que, tu sais, ils ont pas mal de job.
Ouais.
Parce que c'est difficile, des fois, de mettre un poste ergonomiquement stable quand que, tu sais, quand tu travailles en chaîne.
Puis il faut aussi que la personne respecte les recommandations. Il y a ça dans toute l'histoire. Là.
Ça.
Parce qu'on en fait, nous autres, des fois, puis je doute qu'après 10 minutes après que je sois parti, le poste, la chaise, elle redevient comme elle était avant.
Ouais,
ça amène un certain inconfort, des fois, d'être bien ajusté à un poste de travail.
C'est changer ton habitude. C'est comme si tu fais un squat qui est tout croche, quand tu veux le retravailler, ben il va falloir que tu redescendes tes poids. Il va falloir. Puis c'est la même affaire. T'sais. Si tu changes un poste de travail, peut-être que l'efficacité de la personne va être un peu moindre parce qu'elle va se sentir un peu moins bien. Puis, tu sais, son clavier ne sera pas nécessairement à la même place, son écran non plus. Fait que, tu sais, la vitesse d'exécution, on va peut-être en prendre un coup au début. Puis, ça dépend tout le temps comment son boss, s'il met de la pression pour exécuter son travail aussi.
Aussi. Côté sportif, tu travailles beaucoup avec des sportifs qui ont eu des commotions cérébrales. On t'a référé aussi quelques sportifs qui s'entraînent ici qui ont eu des troubles puis tu les as aidés. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu qu'est-ce que tu fais avec eux qui va les aider dans la récupération suite à une commotion.
Mais dans le fond, là, la principale chose, à mon avis, pour une commotion cérébrale, c'est qui perdure. Hein. Les commotions cérébrales, c'est de type aigu. Hein. Normalement, il devrait se régler dans à peu près 2 semaines. Que 2 semaines, c'est que tu fasses quelque chose ou que tu fasses rien, l'inflammation au niveau du cortex va diminuer. Les symptômes vont s'en aller, puis ça devrait être. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas rien en dessous, là. Ça veut dire qu'il n'y a plus de symptômes. Les commotions qui sont plus difficiles, hein, c'est sûr qu'ils vont perdurer un peu dans le temps. Il y a certains symptômes, la photophobie, l'étourdissement quand tu te lèves rapidement ou quand tu tournes vite, la difficulté de concentration, la fatigue, ces choses-là, là, ils peuvent rester beaucoup plus longtemps. Puis là, on veut savoir dans quelle partie, tu sais, quelle partie corticale qui est plus affectée. Fait que à notre clinique, on a une série d'appareils technologiques qui viennent vraiment mesurer certains paramètres vraiment précis qu'on veut avoir. Parce qu'on veut les mesurer avant, puis on veut les mesurer après, pour savoir voir si on a eu un changement. Tu sais, ça peut être une plateforme de force pour calculer l'équilibre, regarder voir le système vestibulaire. Ça peut être ce qu'on appelle un VNG, tu sais, on met un genre de casque, puis on fait des simulations. Dans le casque, il y a des caméras, puis on regarde voir ce que les yeux font. Pourquoi? Parce que les yeux, c'est la meilleure fenêtre au niveau du cerveau. Fait que, tu sais, ton système oculomoteur utilise 85% de ton cortex. Fait que, dépendant du mouvement que tu as, tu sais, c'est une poursuite, ça veut dire un genre de tracking au niveau de tes yeux, ça utilise plus certains groupes, certaines neurones dans une partie corticale. Si tu as une saccade, une refixation, ça veut dire que tu bouges les yeux rapidement d'un point A à un point B, c'est une autre partie. La fixation, si tu fixes une chose, c'est une autre chose. Fait que, en ayant ces différents paramètres-là, on est capable de, tu sais, de développer un programme qui va venir aider justement à pallier une panoplie de symptômes qui peuvent perdurer.
Dans le fond, ce que vous cherchez à faire vraiment, c'est à, comment, à pointer ou à préciser vraiment le diagnostic, dans le fond.
Oui, c'est ça.
Parce que des fois, parce que la fameuse histoire Crosby, là, que c'était pas son commotion, c'était son coup, là.
Ouais. Ça a été détecté. C'est ça, on a des tests pour faire ça. T'sais. Si on veut savoir, parce que le coup peut vraiment mimiquer une commotion cérébrale. Ouais. On a un réflexe entre le coup et le système vestibulaire qu'on appelle le réflexe cervico-colique. C'est ça. Fait que si tu as quelque chose dans le cou, ça peut affecter ton centre d'équilibre, ça peut affecter tes maux de tête, ça peut même affecter un petit peu là, ta vision. Nous, ce qu'on fait, c'est super simple, c'est un quick test. Là. On regarde les yeux fermés, les pieds collés sur une surface instable. On regarde comment son système vestibulaire réagit. Puis là, on y fait tourner la tête d'un côté ou de l'autre, puis on regarde voir s'il y a une différence au niveau de son centre de masse au sol. Puis s'il y a une différence, bien, on est capable, avec d'autres tests, de spécifier, tu sais, est-ce que c'est plus un problème, est-ce qu'on va travailler plus le cervical en premier ou on va travailler plus le vestibulaire?
OK. OK. Fait que vous précisez vraiment, vous cherchez vraiment à préciser, donner des exercices en fonction du problème. Nous, on dit une commotion, ben, après 4 jours, tu fais ça, après 8 jours, tu fais ça. C'est vraiment dire, ben là, c'est pas
ouais,
juste
non,
une commotion.
Non, il n'y a pas de trio McDo dans ce qu'on fait, là. Tu sais, si, il y a des personnes, tu sais, que dans leur champ visuel, s'ils poursuivent un objet, tu sais, ça peut être, disons, une balle, disons qu'on regarde le tennis, tu sais, puis on suit la balle de tennis de gauche à droite. Il y a des personnes qui vont être super bonnes, tu sais, pour y aller entre 10 degrés là, puis 0 degrés, puis dans l'autre, ils vont être bonnes, mais à 8 degrés, ils vont avoir comme un genre de glitch. Fait qu'on veut pas réhabiliter toute la séquence, on va juste réhabiliter à 8 degrés, puis on va donner des exercices spécifiques dans ce champ visuel-là.
OK.
C'est vraiment individualisé selon le trouble de la personne.
Un petit peu plus, puis tu sais, on peut comparer ça à un mal de dos. Tu sais, si on a un mal de dos, si on ne localise pas la lésion, tu sais, si admettons, on dit, ben, on va te donner des exercices pour la hanche, pour ton bas de dos, pour tes psoas, puis tout le kit, puis on va tout te donner ça, puis tu vas faire ça, mais les chances de réussite sont beaucoup moins bonnes que si tu donnes un exercice de mobilité interne de la hanche droite.
OK. On note une baisse de participation au football, là, surtout pour les kids, là, les jeunes, par peur justement des blessures, les commotions, il y en a de plus en plus. Là. Penses-tu que c'est vraiment possible de prévenir des commotions par l'approche dans le off-season que les entraîneurs vont avoir avec les jeunes, soit en préparation physique ou en musculature, renforcer la musculature du cou ou des trucs comme ça?
Ça, il y a des études qui ont été faites. Il y a même des genres de devices qui ont été inventés pour renforcer le
cou. Iron neck?
Oui, c'est ça. Puis
crois-tu à ça?
Oui puis non. je crois que si tu as une musculature un peu plus forte, ça peut minimiser l'impact. Ça minimisera pas la force de l'impact, mais ça peut minimiser le contre-coup que tu peux avoir un petit peu. L'autre affaire.
Parce qu'après tout, dans le fond, quand tu as une commotion, il y a un impact, puis c'est le cerveau qui bouge dans sa boîte.
Oui, c'est ça. Ben, c'est
même si tu renforces pas.
C'est le cerveau qui bouge, hein, mais souvent, hein, c'est un peu cet exemple-là que je donne. Tu as ton cerveau, OK, puis c'est comme si tu avais une serviette qui descend. Puis au bout de ta serviette, c'est la moelle épinière, pardon. Puis juste en haut, tu sais, c'est le tronc cérébral. Le tronc cérébral, là, c'est là que ton système vestibulaire vit, puis que la mésencéphale aussi, ça veut dire, tu sais, que quand tu es photophobique ou ces choses-là, là, photophobique, ça veut dire que tu es intolérant un peu à la lumière, ou tu peux être au son aussi. C'est moins cortical, c'est plus au niveau du tronc cérébral. Okay? Fait que des fois, quand tu as un impact, tu sais, tu peux avoir un impact qui est au niveau torsionnel. Puis les impacts au niveau torsionnel, c'est comme si je prenais ma serviette puis je la tordais un petit peu comme ça. Fait que les neurones au niveau du tronc cérébral deviennent un peu plus, pas tordus, mais deviennent un peu plus, un peu plus tordus.
Compressés.
Compressés, mais c'est un impact qui devient un peu différent. Puis ça affecte un petit peu plus, c'est ça, le tronc cérébral, puis les symptômes sont différents. Fait que je pense pas que on peut prévenir ce genre d'impact-là. Mais c'est sûr que si le coup est un petit peu plus fort, là, ça peut changer. En même temps, tu sais, puis je pense que ce qui peut changer, c'est si tu entraînes ton corps un peu d'une manière différente. Si tu as une meilleure vision périphérique, tu vas voir plus les coups arriver. Donc, la chance que tu as d'éviter un impact va être meilleure. Okay. L'autre chose, il y a aussi ta vitesse de réaction. Si ta vitesse de réaction est vraiment moins bonne, ben, tu sais, il y a certains impacts que tu pourras pas éviter. Puis, en fait, cette étude-là sur les croisés antérieurs, puis, ils ont découvert, tu sais, que peut-être que pour aider à éviter les croisés antérieurs, tu pourrais avoir un genre d'entraînement peut-être cortical. Tu vas avoir une meilleure vitesse de réaction, puis, tu sais, ça va éviter certainement pas toutes hein, les blessures au croisé, mais ça va éviter certaines blessures au croisé qui auraient pu avoir lieu.
OK. Même si la préparation physique, ça a cheminé beaucoup dans les dernières années, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Puis les commotions, les blessures aux genoux, c'est deux trucs qu'on voit régulièrement. En tout cas, ici, c'est une base régulière. Hein. Puis, Alexis travaille souvent avec des sportifs qui ont des blessures aux genoux, puis c'est ça, là. Souvent des filles dans un certain âge qui sont en plein développement, qui ont des sports soccer assez régulièrement, basket aussi, qui a beaucoup de mouvements sur réaction, jeu avec un ballon aussi en même temps, déplacement, stop and go. Donc, ouais, je pense aussi que c'est une bonne chose à entraîner. Mot de la fin, Alexis?
Ben, merci d'être venu.
Merci d'être venu.
C'est super intéressant, mais c'est fun de voir que souvent l'idée que les gens ont du chiro, c'est que tu rentres, ça prend 10 minutes, t'es ressorti, ça fait crac-crac, puis c'est tout ce que le chiro est capable de faire. C'est comme, sans nous avoir dit, c'est oui, ça, des fois c'est ça, des fois c'est pas ça.
Ouais, c'est ça.
Puis quand c'est ça, c'est qu'il y a une raison pourquoi c'est ça, puis quand c'est pas ça, ben, il faut être capable d'aller voir ailleurs.
Ouais, c'est ça.
Puis que c'est intéressant de voir que tu vois, l'image qu'on a, c'est un mal là, fait que tac-tac-tac, ça rentre chez vous, alors que tu cherches quand même à aller chercher la source du problème, puis à préciser le diagnostic, puis vraiment faire ton travail, dans le fond, le plus professionnellement possible. Là. Je pense que pour moi, dans ma pratique, dans ce qu'on voit ici, c'est primordial. Là. C'est pas juste... pour moi, quelqu'un qui me dit qu'il a mal au coude, ben souvent, il n'a rien fait, il n'a pas mal au coude, il n'a pas... Fait que c'est d'investiguer. Nous, on est limité par notre champ d'expertise, mais c'est d'en référer à du monde qui sont capables d'aller voir, OK, ben si tu l'as, c'est quoi la source de ce problème-là?
Des fois, c'est difficile aussi, tu sais. J'ai pas la réponse à toutes les questions non plus, là. Fait que c'est pour ça qu'on travaille avec d'autres professionnels. Puis on,
mais c'est de savoir qu'on est capable de travailler avec du monde qui vont vraiment à la source du problème plutôt que juste attaquer le point de douleur, mettons, qui souvent est juste la conséquence de d'autres choses.
Hein. Effectivement.
Pour moi, c'est la base d'un traitement qui va réussir un puis qui va tenir dans le temps aussi. Là,
parce que aussi.
Faire en sorte aussi que les gens comprennent mieux la pratique puis les gens sachent pourquoi on peut aller te consulter, puis de ne pas avoir peur d'aller consulter non plus. Puis nous, on n'a pas de problème à faire des références à des chiros. Puis tu sais, on connaît cette pratique-là, puis je pense que c'est peut-être là un peu la problématique. Moi, je trouve qu'il y a encore en 2020, c'est que le référencement entre les différentes professions se fait pas encore assez facilement.
Effectivement.
Il y a des médecins qui vont référer à des physios, il y en a d'autres qui sont pas très pro-physio. Là. Moi, j'ai déjà un physio qui m'a dit ben, si tu vas en physio, ça va prendre un mois à régler ton problème. Si tu y vas pas, ça va prendre 4 semaines. Fait que, tu sais. Puis, je pense que c'est le même principe pour les chiros. S'il y avait plus de référencement entre les différentes professions, peut-être que.
Meilleure connaissance aussi de certaines choses. Ouais. T'sais, souvent, t'sais, moi, j'ai travaillé avec des physios, ça fait 22 ans que je travaille avec des physios. Fait que les physios avec qui je travaille, ils savent très bien ce que je fais. Là. Fait que, t'sais, jamais que si on a un patient, mettons, commun, puis on le sait pas, t'sais, on se l'est pas référé, mais on a un commun, t'sais, jamais qu'il va me dire, hey, va pas voir Phil, tu sais, parce que il je veux pas qu'il te touche, tu sais. Il va dire, ben justement, tu sais, va le voir, puis dis que moi j'ai travaillé là-dessus. Fait que tu sais, c'est une belle complicité, tandis que tu sais, le monde qui me connaisse pas ou qui connaisse pas vraiment notre profession, ben il va avoir tendance peut-être à dire, ben moi j'aime mieux travailler tout seul dans mon coin là, puis quand on aura stabilisé ça, ben là tu pourras aller voir ton masso, tu pourras aller voir ton chiro ou ton acupuncteur. Tu sais, je pense que c'est un peu de c'est pas vraiment l'approche que moi j'aime, tu sais, que j'utilise à la clinique. Là.
Non, moi je pense que l'avenir est là-dedans, parce que moi on le vit ici. Là. Mettons, j'ai une exemple de cliente, là, Pascal, c'est une cliente. Elle est mieux. Après ça, on a comme changé pour différents. Pour une question d'horaire, on a changé, puis c'est moi qui l'ai pris en charge. On en a parlé, puis juste le fait d'en vraiment parler ensemble. Puis du coup, moi j'aime mon approche par-dessus ce que lui avait fait. Ben là, elle a comme fait un step de plus. Là, je l'ai référé, elle a fait un step de plus en travaillant avec la personne à qui j'ai référé. Finalement, tu te rends compte que c'est en travaillant ensemble que tu vois des bons résultats. Là.
Exactement, exactement. C'est, que souvent, c'est ça là donne... qu'on a bien durable, tu sais, que la personne est capable, en plus, elle se sent prise en charge.
Mm. Fait que ben, ça, puis elle s'est dit « Ah, Phil, elle parlait à Alexis, fait que ouais, c'est correct. » C'est comme, il y a comme une confiance qui s'installe, puis on ne rentrera pas là-dedans parce qu'on n'a pas encore 2 heures à faire le podcast. Là, mais tu sais, la douleur vient d'où, puis c'est quoi la douleur, genre?
Ouais.
On pourrait en parler pendant longtemps, là, mais il y a quand même une bonne partie qui est psychologique.
Oui. C'est la douleur.
La raison
c'est,
ou à tort, là, mais...
C'est ça, psychologique corticale, là, qu'on pourrait dire. Là, ça vient, c'est ton cerveau qui perçoit la douleur. Mm-hmm. Fait que si ton cerveau est plus fatigué ou qui est plus excité d'une certaine zone, ben, il va l'apercevoir plus que mettons, que toi qui t'as eu mal dans le dos pendant 25 ans.
Oui, c'est ça.
C'est des fois juste de mettre la personne en confiance, puis qu'elle se sente bien, puis qu'elle sache qu'elle est bien entourée. Puis ça, déjà, ça, t'as une partie de ça, je pense que t'es capable.
Ouais.
Ouais, c'est une amélioration juste avec ça, juste que la personne, elle sente qu'elle t'aime, ben, pas aimée, là, mais qu'elle est suivie, qu'elle est bien supervisée, qu'elle sait que peu importe ce qu'elle fait, s'il arrive de quoi, on va s'occuper d'elle.
Ouais, t'es encadré, déjà, c'est ça.
Elle est plus en confiance, elle se sent mieux juste par ça, là. C'est pour ça que je pense que c'est important de travailler.
Ça, c'est avec monsieur, madame, tout le monde. Mais moi, je regarde tout le temps avec les sportifs haut niveau. T'sais, selon moi, c'est ça qui est le plus facile à transposer après ça à madame, monsieur, madame, tout le monde. T'sais, tu regardes aux États-Unis, on entraîne Anthony Auclair. Là. Ils jouent à Tampa Bay. Ils ont un staff médical. Ils ont de l'équipement de malade là, pour s'occuper d'eux. Quand tu regardes après ça comment ils gèrent les gars là-bas, ben, t'sais, ils rencontrent un médecin, ils rencontrent un thérapeute, ils rencontrent un chiro. L'entraîneur fait les recommandations dans le gym, puis après ça, les blessures récupèrent beaucoup plus vite. Là. T'sais, si les gens étaient capables de comprendre un peu plus que si un sportif de haut niveau, un athlète de pointe fait ça, ben si tu appliques la même formule pour toi qui est un travailleur d'usine, travailleur de bureau qui a mal au dos, ben, t'sais, au lieu de traîner un. Il y a des gens qui traînent des maux de dos pendant, tu disais, 2 ans, mais il y en a d'autres, c'est 10 ans.
Ouais. Hein? Puis avant, c'était plus difficile d'avoir ce modèle-là, parce que là, on parle d'une équipe de la NFL, puis tout le monde se parle, puis tout le monde est autour de la même table à un moment donné. Mais là, avec les médias, avec nos téléphones, puis les plateformes qu'on a, ben, c'est facile de dropper un exercice ou de dropper un fichier dans le Dropbox, puis te l'envoyer à toi, puis que je te fais une couple de notes, puis je te l'envoie direct, je suis même pas obligé de te parler. Fait que ça sauve beaucoup de temps, fait que la capacité de travailler en équipe est c'est plus facilement transposable maintenant avec la technologie que l'était 10-15 ans.
Ouais. En plus, c'est bénéfique. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça plate. Des fois, on entend parler. Là, mon physio m'a dit qu'il fallait juste que je travaille avec lui et tout ça, comme tu disais tantôt. Là. Alors que si moi, j'ai un client ici que je te réfère et la personne va mieux, ben, son chiro l'a aidé, son entraîneur l'a aidé. Fait qu'elle va en parler parce qu'elle va mieux. Là. Elle ne dira pas « Non, non, moi, c'est quand j'ai vu Phil. » Elle dira « Non, mais elle a un entraîneur, elle a un physio, elle a un chiro. Ça va mieux avec ses trois. Qu'elle apporte c'est de la faute à qui, c'est grâce à qui. »
Ouais, dans le fond, moi, je veux pas savoir, c'est exact. C'est ça, c'est je ça. Pense comme toi, moi aussi.
Puis tout le monde est content parce que, bon, suivi par Alexis, puis ça va mieux. OK, ouais. Ben, si tu cherches un entraîneur, voir Alexis, mais puis si tu as un problème, va te référer à la bonne personne. Puis,
ouais. Peu importe, puis c'est que la personne au bout soit satisfaite.
C'est ça.
Peu importe qui a eu le plus de béni, tu sais, qui a créé plus de bien-être pour cette personne-là, tu sais. Souvent, tu sais, ça peut être juste, tu sais, moi qui fais une petite affaire à la fin, puis toi, tout fait le gros de la job.
Tu as juste fait
puis moi, j'ai juste fait le petit que... clic de la fin.
Ça t'sais. Arrive, ça, souvent, en plus, là, ouais. Avec des sportifs qui ont fait des rehab. Tu sais, des fois, tu as beau sortir tous les meilleurs exercices du monde, les meilleures techniques d'entraînement, mais il reste un petit quelque chose que tu n'es pas capable d'aller chercher. Tout arrive, puis.
Ouais, mais il faut juste pas que tu prennes toute la gloire, parce que là, à ce moment-là, ou le contraire est aussi vrai, tu le mets plus fonctionnel, puis là, tu l'entraînes, puis là, il devient comme une bête, puis il réussit tous ses standards, des choses comme ça. C'est le travail en équipe, c'est de savoir que la petite stimulation ou la grosse, peut affecter d'une manière différente, puis peut le monter d'une coche. C'est de travailler en équipe. Le but, c'est de travailler en équipe. Moi, je pense un peu comme tu disais. Là.
Hey, merci, Phil.
Ça fait plaisir. C'est pas trop dur, c'est facile.
Non, ça va.
Même filmé, tu vois, ça va bien.
Ah, ouais.